Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. On aime le mercredi parce que le mercredi, c'est un jour spécial, celui du Business Club. Toujours un plaisir d'être accompagné par Mami Brahan, fondateur de l'agence créative Mi Agency, pour animer ce podcast. Salut Mam, comment tu vas ?
Bonjour, ça va très bien.
Notre invité du jour est personal trainer. Et là, c'est du sérieux. On parle pas des coachs Instagram. No offense à tous les coachs Instagram. Diplômé d'un master en STAPS, il est aussi master trainer Nike France. On accueille coach Gadi. Salut Gadi, comment ça va aujourd'hui ?
Salut à tous, merci pour l'invitation et ça va très bien, très bien.
Un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Avant toute chose, Gadi, moi je t'ai découvert personnellement via Pauline Duarte.
Ok.
Je la suis pas mal sur les réseaux sociaux, donc c'est comme ça que j'ai découvert ton travail. Mais il me semble que tu es dans le milieu depuis un bon bout de temps. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment tu as commencé ?
Ouais, ça fait. Je réponds souvent à ces questions, mais après, bon, on va y aller le plus naturellement possible. Moi, ça va faire 13 ans que je suis personal trainer à proprement parler. Mais après, depuis quelques années, j'ai développé mon activité sur du consulting, notamment avec Mi Agency. Mais avant Mi Agency, j'avais déjà commencé, moi, mon activité de consulting sportif. Donc, okay. Je reste dans mon domaine d'activité. Mais comme tu dis, ouais, j'ai commencé un master d'éduquémote, c'est ce qui signifie master d'éducation et motricité à STAPS, à l'université d'Orsay. Et ensuite, directement, je me suis lancé en 2009 dans le coaching perso, qui à l'époque n'était pas vraiment développé, commençait à peine, et voilà.
Okay. Quand tu parles de consulting, ça consiste en quoi exactement ?
Alors, le consulting, après moi, comme je t'ai dit, je reste dans mon domaine d'activité, ouais, qui est le sport, donc c'est assez large. Par exemple, toi, tu veux monter un événement sportif, recruter, mettre en place un événement, c'est-à-dire y réfléchir en amont, faire le recrutement du personnel, penser la stratégie et ensuite ben, délivrer, c'est-à-dire faire tout ce qu'il y a juste après, tout simplement.
Ok, donc ça va bien au-delà de…
Du coaching sportif, voilà. Tout simple, ouais. Mais après, c'est différentes activités. Hein. Tu peux, par exemple, tu veux monter demain une salle de sport, c'est complètement faisable, c'est complètement dans mes cordes. Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Parce qu'en fait, grâce… Bah, l'expérience tout simplement et au réseau que tu te tisses, eh ben, tu réussis à avoir tout un écosystème de gens qui travaillent dans le milieu du sport, mais pas que. Tu vois, okay, ce que je veux dire ? Parce que pour une salle de sport, tu peux pas avoir que des coachs ou qu'un endroit. Il faut tout ça, il faut réfléchir à tout ce qu'il y a en amont et tout ce qui est administratif, tout ce qui est organisationnel. Il y a plein de choses qui, okay, rentrent en compte, tu vois, pour pas après être pris au dépourvu tout simplement.
Ok, mais comment vous avez été amené à collaborer ensemble ?
Mam, c'est très simple, c'est des amis avec qui j'ai monté une agence de marketing sportif qui me l'ont présenté il y a bientôt 10 ans.
Ok.
Tu vois, donc Mam, ça a toujours été un athlète en même temps. Et moi, vu que ça a coulé de source, et comme on est resté dans notre petit milieu, dans le sens où vraiment ces amis-là étaient très proches de Mam, il y en avait un qui était à l'école avec Mam, je crois.
Ok.
Et en fait, lui, ça a été un de mes associés. J'avais 3 associés pour commencer, puis 2 par la suite. Et ils nous ont présenté, on a fait des événements ensemble. Et en fait, le building, il est toujours très bien passé. Après, même, c'est un très beau garçon. Il a de l'entre-gen, on va dire ça comme ça. Mais voilà, le feeling est très bien passé. On est toujours resté. On a toujours entendu des très bons rapports. Et après, clairement, ça s'est fait naturellement. Quand il avait besoin de quelque chose, bah, il pouvait m'appeler. Et moi, surtout, j'avais besoin des choses par rapport à un contact sportif ou même des sportifs, à savoir des renseignements. Parce qu'il faut savoir que le monde du sport, bah, il est vaste, mais en même temps, ça reste une niche. Parce qu'il faut dégoter la bonne personne au bon moment pour le bon projet. C'est pas facile. Tu peux avoir plein de contacts, mais si tu as des contacts qui ne te servent à rien, entre guillemets, on est sur autre chose. Donc voilà, on a toujours eu d'entretenu de bons rapports et 10 ans, ça va vite, mais on s'est toujours vu de temps à autre et après, depuis quelques années, très souvent, et c'est comme ça qu'on a décidé de collaborer ensemble, quoi.
Ok, mais du coup, c'était vraiment business, votre relation, c'était pas forcément de coach.
Pas au début. Okay. Pas au début. Non, on n'a jamais eu une relation de, de coacher, jamais coaché MAM à proprement parler. Okay. Mais parce que je pense que quand tu es en équipe de France d'athlétisme, je pense que tu as la structure avec l'INSEP et tout ce qui va.
Okay.
Maintenant, ça aurait pu se faire, mais je pense qu'il avait, il avait largement de quoi faire. Mais non, ça a juste été une relation purement amicale.
Ok.
Ouais, ouais. Vraiment. Okay. On n'a pas mixé les deux et je pense que c'était bien puisqu'on parlait de tout justement, de sport, de la vie en général, de projets, de business, de projections. De tout et ça fait aujourd'hui une relation aussi de travail qui est très bonne puisque on sait faire la part des choses, le boulot et ce qu'il y a aussi, ce qu'il y a aussi à côté. Parce qu'en disant, il y a aussi beaucoup de choses qui changent, hein, mm-hmm. nos familles. Et voilà, donc voilà une relation très saine. Et comme il a dit, le monde du sport, ça reste aussi quand même un petit milieu. Et okay. Le monde du coaching ou des projets autour du sport, c'est aussi différent. Donc, c'était cool de pouvoir mélanger les deux. Et je sais aussi que c'est un très bon coach. On peut le voir sur les réseaux, mine de rien, même s'il est très discret, qui fait souffrir les bonnes personnes, qui fait les bons entraînements. Et ça, c'est
j'ai vu ça avec Pauline. Tu l'as fait pas mal souffrir.
Bah, après, Pauline, aujourd'hui, c'est un peu comme ma sœur. Je l'apprécie énormément. Après, après, ça fait 13 ans. Pour moi, ça paraît. C'est passé comme un claquement de doigts, mais je n'ai pas vu passer ces années. Clairement, ouais, en termes de clientèle, j'ai un panel assez.
Ouais, on va revenir sur ça
okay, très
au
bien.
Niveau de
autant pour
tes
moi.
Clients. Non, il n'y a pas de souci.
Autant pour moi,
on va en parler. Et peut-être, même un petit mot ajouté sur le côté mannequin, peut-être.
Non, zéro.
Mam est mannequin lui-même, il ne veut pas. Je lui ai proposé, moi, de le représenter en tant que mannequin, mais il ne veut pas.
C'est pas pour moi.
Ok. Et sur vraiment, comment tu interviens au niveau de l'agence de Mam, puisque.
Bah après, comme je t'ai dit, la partie consulting, comme ça fait des années qu'on se côtoie, quand Mam a eu l'idée de monter Mia Agency, il l'a monté, mais après, on a toujours eu beaucoup de discussions. Et clairement, on s'est dit, il y avait vraiment des synergies, sachant qu'on est, entre guillemets, le sport, on est clairement tous les deux dans le monde, dans le monde du sport. Et on a clairement des compétences à faire valoir chacun de notre côté, avec un réseau aussi, des fois, qui se rejoint, mais aussi différent.
Okay.
En France et à l'international, c'est ce qui est bien. Et c'est comme ça qu'on a décidé de collaborer ensemble, tout simplement.
Ok.
Ouais.
Donc, c'est le business club.
Ouais.
Donc, il est temps de rentrer dans des choses plus concrètes.
Avec plaisir.
J'en rigolais tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire que l'avènement des réseaux sociaux, ça a facilité la tâche pour les personal trainers et les coachs sportifs de manière générale, ou justement, ça a compliqué les choses?
C'est à double tranchant. Clairement, j'adore ce sujet, mais j'en parle avec les gens de tout horizon. Pour certains, oui. Moi, je suis clairement, je dirais pas que je suis pas un mec des réseaux sociaux. Vous avez vu, mon Instagram, c'est pas le Instagram le plus fourni, mais c'est un parti pris. Tout simplement,
okay.
C'est un parti pris parce que ça fait 13 ans, parce que j'ai commencé il y a longtemps, parce que j'ai décidé de faire autrement pour tisser moi, pour construire mon réseau. Mais clairement, ça a mis en lumière énormément de coachs. Et ça a aussi, je dis bien entre guillemets, tué beaucoup d'autres coachs.
Okay.
C'est-à-dire qu'il y a des très bons coachs avec des compétences énormes qui n'ont pas de boulot.
Comme ils ne savent pas se vendre.
C'est ça, okay. C'est beaucoup d'images. Et après, entre guillemets, il y a beaucoup de coachs aussi. Il y a le savoir-faire, c'est-à-dire ce qu'on apprend et ce qu'on développe tout au long de sa vie et de sa carrière. Et le savoir-être. Le savoir-être, il y a énormément de coachs qui, pour moi, ne l'ont pas.
Okay.
Le savoir-être, c'est ce que je disais avec Mam, c'est de l'entre-gens. Être commercial, c'est un peu galvauder le terme, mais je pars du principe qu'il faut savoir quand même se vendre. Si tu ne sais pas te vendre dans un milieu ultra concurrentiel, ça devient vite compliqué. Et c'est le problème de certains coachs qui sont très bons. Moi, j'ai des coachs avec lesquels je travaille, ils sont très bons. C'est des mecs qui ont des doctorats,
mais
ils n'ont pas de boulot parce que si tu vas les mettre face… En fait, comme dans la vie, pour moi, ce qui compte le plus, c'est l'adaptabilité, comme avec un client. Mam, c'est un athlète. Si demain, j'entraîne quelqu'un d'autre… Si j'arrive pas à m'adapter à son profil, j'ai perdu.
Ok.
Et en fait, il faut savoir que malgré que c'est un métier passion, ça reste un métier. Donc, à partir de ce moment-là, si tu ne sais pas, c'est un service. Si tu n'as pas d'entraînement sportif, tu vas, entre guillemets, pas en mourir de suite. Tu seras en moins bonne santé si tu ne t'entraînes pas, mais ce n'est pas de l'alimentaire. Ça veut dire que, clairement, si tu ne sais pas te vendre, tu n'auras pas de clients, tout simplement.
Toi, d'un point de vue extérieur, est-ce que, en termes de crédibilité, tu penses que ça compte, ça ?
Oui, ça compte. Mais après, il y a d'autres choses, je pense, aussi dans le coaching qui font qu'on peut être un très bon coach. C'est accompagner une personne dans son quotidien. Je pense que c'est difficile.
Okay.
C'est difficile et je pense hein, dans le portefeuille de Gadi client, il y a beaucoup de monde qui sont là, qui sont depuis très très longtemps. Mmh. Et ça joue. Tu vois, pouvoir entretenir une relation, pouvoir aussi apporter toujours une évolution à une personne dans l'entraînement, dans la vie de tous les jours. Et Gadi, c'est une personne qui est, je vais dire le mot, qui est en or dans ce côté-là aussi. C'est-à-dire que des fois, avoir des clients qui peuvent avoir des coups durs, une journée de travail difficile, et se dire « Ah, vas-y, je vais aller à l'entraînement. Pourquoi j'irai à l'entraînement ?» Ou « Pourquoi je ne rentrerai pas à regarder une petite série Netflix ou autre ?» Et non, je suis à l'entraînement, je souffre, mais je vais rentrer, je vais être content d'avoir fait mon sport. Il y a aussi cet accompagnement-là qui est dedans. Mmh. Donc, il y a un gros apport psychologique avant celui physique. Et ça joue. Et c'est aussi entretenir les gens, des relations, faire un travail. Okay. Qui fait qu'on progresse, qu'on a envie de se donner aussi des objectifs, puisqu'il y a des gens qui ont des objectifs dans le travail, mais pas forcément dans le sport. Et mmh. là, c'est de pouvoir multiplier tout ça, et je trouve que c'est hyper intéressant.
Ok. Ouais. À l'instar d'un athlète, c'est primordial, on va dire, l'image. Donc, pour un coach sportif aussi, ça l'est. Mais est-ce que le diplôme, ça perd de sa valeur ?
Je pense pas que le diplôme perde de sa valeur, dans le sens où, clairement, je pense que la France a une des meilleures formations,
okay.
que ce soit le BP ou une licence ou un DUST ou un master. Clairement, on a la meilleure, selon moi, de ce que j'ai vu, on a la meilleure formation.
Okay.
Mais non. Après, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on trouve à boire et à manger, tout simplement. Mmh. Après, vraiment, pour moi, accompagner quelqu'un, c'est très difficile. Donc, les gens qui ont 100 clients, déjà, j'en connais très peu, à part ceux qui font beaucoup de coaching en ligne. Donner de l'attention à quelqu'un psychologiquement, c'est même la première étape avant même de donner de cadrer un entraînement. Ça devient une mécanique, ça devient facile. Mais l'aspect psychologique, il prend une grosse part.
Okay.
C'est pour ça que pour moi, c'est très important. Et comme je vous dis, les réseaux sociaux, ça a ouvert la porte à des très bonnes choses, mais ça a aussi ouvert la porte à de grosses dérives. C'est ça, okay. moi, le vrai constat. Et après, ça, c'est un constat qui, malheureusement, tant que les réseaux sociaux existeront, c'est très compliqué à maîtriser, en fait.
D'accord.
C'est très compliqué.
Mais tu parles de l'aspect mental.
Ouais.
Pourtant, on ne peut pas être seulement préparateur physique et laisser de côté l'aspect mental. Il y a vraiment...
C'est impossible. Après, okay. pour les athlètes de niveau, pour moi, c'est encore plus poussé.
Okay.
Ils ont forcément besoin d'une préparation mentale. Et même si un préparateur physique n'a pas... un préparateur physique qui n'a pas la dimension psychologique, c'est pas mon préparateur physique, c'est okay. pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a forcément un affect, il y a le côté humain. On travaille pas avec des machines.
Okay.
C'est mon avis. Hein. Mais après, peut-être que ça s'est déjà fait.
Parce qu'on est d'accord qu'il y a deux métiers différents. Il y a coach mental, par exemple.
Bien sûr.
Et il y a préparateur physique.
Mais... Oui, clairement. Ça devient deux. Après, maintenant, certains préparateurs physiques se forment ouais. et vice-versa. Mais vraiment, le truc, c'est que pour moi, l'aspect psychologique, c'est primordial.
Ok. Tu as parlé de la formation aussi.
Ouais.
La formation en France, elle est très bonne. Ouais. Sur quels critères on la juge par rapport peut-être aux autres pays? Sur quels critères
sur la différenciation? Sur l'approfondissement des connaissances.
Okay.
Je ne vous dis pas qu'elle est parfaite. Je vous dis qu'elle est mieux que ce que je vois, ce que je connais d'ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, vous pouvez faire pour avoir un diplôme, vous pouvez passer une semaine et vous avez un diplôme et vous êtes autorisé à enseigner.
Okay.
En France, non, pas du tout.
C'est pas possible.
Le minimum, c'est le CQP.
Okay.
Le minimum, j'ai bien dit.
Le CQP, c'est...
Le CQP, c'est quelque chose que vous faites... après, j'ai plus les exactement. Mais en fait, je sais que ça dure bien 10 mois.
OK.
Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Comparé à une formation d'une semaine. Et voilà, il y a des cas pratiques, vous étudiez quand même. Même si ça peut être à distance, je crois. Mais c'est quand même une formation beaucoup plus poussée qu'à l'étranger. Même okay. en Angleterre ou ailleurs, quoi.
D'accord. On va revenir sur ton rôle chez Nike.
Mm-hmm.
Qu'être un master trainer.
Master trainer, en fait, c'est juste que Nike a décidé de clairement d'avoir des ambassadeurs et des trainers ambassadeurs. Okay. En gros, tous les événements que Nike font, même s'il n'y a pas grand chose, eh ben vous êtes, ils vous font entraîner différentes catégories, dans différentes catégories, par exemple, que ce soit des athlètes, des influenceurs, ce genre de choses, tout ce qui est fitness et même après cross. Cross catégorie, c'est-à-dire okay. des gens, des médias, des journalistes. On va pas se mentir, ça m'a apporté, ça m'a beaucoup aidé à étoffer mon réseau.
Ok.
Ouais, clairement.
D'accord.
Donc c'est ce que ça signifie.
Et donc sur ces activations-là, mm-hmm. toi, peu importe le sport, ou c'est vraiment lié au fitness?
Non, peu importe le sport. J'ai déjà fait des OP foot, par exemple, des OP basket, des OP running beaucoup. Moi, j'ai commencé par le running même. Okay. Et ensuite, des OP training, donc crossfit pur et dur. Ouais. Donc, ouais, non, j'ai eu la chance d'avoir touché à tout.
J'ai vu aussi que tu travailles avec pas mal de clients importants. Il y a pas mal de clients importants qui te sollicitent. Mm-hmm. Au-delà de Nike, il y a Go Sport, je crois, L'Oréal, ouais. Vanity Fair, j'en
ouais.
passe.
Oui, bien sûr.
En quoi ces collaborations consistent ? Est-ce que c'est les mêmes types de collaborations qu'avec Nike ou là tu…
Bah après, ça s'est fait… en fait, comme je t'ai dit, plus tu travailles, mieux tu travailles et plus ton réseau s'étoffe. Et en fait, moi, ça a été du team building, ça a été des trainings ponctuels, des comités d'entreprise. Okay. Le team building, c'est des choses qui se font régulièrement, les comités d'entreprise aussi. Donc, ça dépend de quelle mission. Ça dépend vraiment. Moi, je leur fais des propositions des fois, ou des fois, c'est eux qui sont venus me chercher, me proposer. J'ai travaillé à l'étranger en Suisse, au Gstaad Palace, par exemple. Ça, okay. c'était du consulting pur et dur, à refaire tout l'espace fitness. Et ensuite, j'ai travaillé là-bas pendant un moment. Donc, c'est là qu'en fait, j'ai découvert plein de choses qu'il n'y avait pas. Moi, j'ai beaucoup. J'ai pas voulu rester cantonné. Après, c'est pas. Je respecte chacun sa vision du métier. Mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je voulais voir autre chose et surtout penser à une sorte de reconversion, même avant, okay. Sachant que je continue d'exercer.
Ok. Et comment on fait pour s'adapter, puisque mm-hmm. tu parles de team building, etc., mm-hmm. à une clientèle type entreprise, mm-hmm. de passer d'une clientèle type entreprise à des athlètes de très haut niveau ?
Eh ben, c'est là que je vous dis que l'adaptabilité pour un coach sportif, et moi pour, dans la vie en général, mais pour un coach sportif, un préparateur physique, pour n'importe qui, quand vous travaillez avec des personnes, à partir du moment où il y a une dimension humaine, je pars du principe que vous êtes obligé de vous adapter. Si vous voulez travailler, après sinon vous pouvez rester dans une certaine catégorie, mais vous ne pourrez pas en bouger.
Okay.
Alors que là, l'adaptabilité, ça m'a permis de travailler. Après, je ne suis pas quelqu'un de timide de nature, clairement.
Okay.
Avec l'âge encore moins, mais je suis plus réservé, mais je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir eu un père très strict et qui m'a toujours poussé à m'exprimer, qui m'a toujours expliqué que communiquer, c'était un peu la base de tout.
Okay.
Et savoir communiquer et se faire comprendre, se faire entendre, c'est très important. Mais aussi écouter les gens, parce que la plupart des gens parlent,
mais ils écoutent pas.
Mais n'écoutent pas. Ouais. Et c'est très rare, moi je connais, la plupart, c'est pas, je jette la pierre à personne, mais il y a plein de... Le métier de coach sportif, ça peut booster votre ego à un degré qu'on n'imagine même pas.
Okay.
On n'ira pas jusqu'au. On n'est pas des mannequins ou des acteurs de cinéma. Hein.
Ouais.
Mais ça peut. Parce qu'un coach sportif, vous lui dites plein de choses. Il a votre santé entre les mains, mais au-delà de ça, il a pas vos secrets, mais quand vraiment vous partagez avec un coach sportif, ça va au-delà. C'est pour ça que je vous dis honnêtement, je ne pourrais pas avoir. Sans client, ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible.
Quelque part, en fait, on rentre dans la famille du client.
Clairement, dans l'intimité, comme lui, entre guillemets, vous lui partagez des choses. Mm-hmm. Parce que c'est un échange en soi. Vous prenez soin de sa santé physique, mais des fois, vous parlez avec lui et vous comprendrez plein de choses. Des fois, ils se confieront. Moi, j'ai une grosse majorité de clients féminines, femmes, pardon. Je sens quand ça ne va pas. Les hommes okay. aussi, mais c'est ouais. différent. Les femmes se confieront plus facilement. Mais après, il faut savoir tempérer. Il faut savoir aussi rester à sa place. Des
mettre
fois,
la distance.
Exactement. Ouais. Des fois, il y a des choses, ce n'est pas votre problème. Et c'est okay. à elle de dealer avec toute seule. Vous lui dites, voilà, ça va. Est-ce que ça va ? Ouais, OK. Si elle veut en parler, dites, ça, moi, je ne vais pas rentrer dedans. Parce que sinon, après, faut savoir mettre des barrières aussi. Hein. Okay. Parce que si vous rentrez trop dans l'intimité, où est-ce que vous mettez la limite ?
La limite.
Okay, ça peut très vite déraper. Et même après, son mari peut lui dire, mais t'as pas à lui dire des choses. On va rester, voilà, il faut savoir vraiment mettre des distances. Et pour moi, ça devrait être comme ça dans tous les métiers.
Ok. Moi, j'avais, je sais pas si tu suis un peu l'actualité de Kevin Hart, par exemple.
Ouais, bien sûr.
Il faisait une sorte de télé-réalité avec son coach sportif, ouais, justement.
Ouais, bien sûr.
Et moi, je pensais que c'était un peu poussé, mais finalement, ce que tu décris, c'est... Ça a l'air de retranscrire un peu.
Clairement,
cette réalité-là.
Clairement, il me fait excessivement rire. Et son entraîneur, il est complètement fou et j'adore. Non, c'est ça. C'est clairement ça. Moi, j'ai des okay. clients et des clients qui pourraient être mon père, hein, clairement. Si vous voyez comment on se parle, vous rigolez. Mais clairement, vous rigolez.
Okay.
J'ai des clients de l'étranger, des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle malheureusement les 0,1% de cette planète, bah, clairement, je leur parle, les gens... après, c'est des cultures différentes, il y a plein de choses. Je leur parle d'une façon limite, comme si c'était des gens avec qui j'avais grandi depuis 30 ans. Mais okay. Parce qu'après, il y a une certaine proximité et tu sais quand tu peux le faire. Tu sais quand tu as passé un cap ou non. C'est comme tout. Moi, je viens de rencontrer une personne, je ne vais pas lui dire... Après, moi, casser la glace, j'y arrive. Mais après, avec l'âge et le temps, forcément, il y a toujours un respect. Parce que j'ai grandi comme ça culturellement. Moi, je respecte les gens parce que je sais que le manque de respect, c'est une chose que je déteste par-dessus tout. C'est pour moi la base de toute relation.
Ok. Maintenant, on a parlé de consulting, de coaching. Tu as aussi ta propre salle, il me semble.
Un studio de coaching.
Ouais. Un studio de coaching.
Ouais. Ouais.
Okay. Mais comment tu te développes en tant qu'entrepreneur ?
Ouais.
À quel moment tu deviens rentable au point d'ouvrir ton propre studio de coaching ?
Après, c'est aussi beaucoup d'opportunités. Il y a des choses que je ne développerai pas plus, mais en gros, c'est des opportunités de vie qui ont fait que tu puisses ouvrir là.
Ok.
Ok, c'est des amis qui montent un projet, qui t'en parlent, qui te disent, voilà, moi, je souhaiterais que, voilà, est-ce que tu penses que c'est possible à cet endroit-là de créer ça ? Et ça s'est fait comme ça, en fait. Mais c'est vraiment des opportunités. Après, le fait de créer, c'est possible, mais il y a très peu de coachs, entre guillemets, et pourtant, je ne suis pas à la tête d'une multinationale, qu'on s'entende bien. Il y a très peu de coachs qui vont prendre le risque, mais qui auront sécurisé certaines choses avant de prendre ce risque. Je ne sais pas si c'est clair.
Si.
Mais pour moi, avant de prendre certains risques, surtout que c'est un métier très volatile en soi, coaching sportif, si on n'est pas bien organisé et si on ne sait pas gérer, parce que par rapport à vos nombres de clients, tout peut changer très vite. Vous pouvez avoir 20 clients un mois et le mois d'après, il n'y a pas d'engagement sur la durée. Enfin, c'est très rare.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu t'es diversifié, comme tu l'as
dit. C'est aussi ça.
Le fait, ce que tu disais juste avant, de préparer l'après-carrière, entre guillemets.
Ouais, ouais. Mais après, voilà, moi, pour moi, il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vraiment un adage qui a du sens, dans le sens où si vous avez tous vos sources de revenus dans un secteur, si ce secteur s'effondre, vous êtes mort.
Ouais.
C'est la vérité. C'est pour ça que quand quelqu'un investit, il n'investit jamais dans un seul secteur. Après, il y a des secteurs plus sûrs. On peut rentrer dans des détails, mais voilà, la pierre.
La pierre.
Ouais, la pierre, quoi. Mais malgré ça, la pierre, il y a des fluctuations. Il y a des taux et c'est jamais rentable de la même façon d'une année sur l'autre. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses que vous devez sécuriser. Après, se diversifier, pour moi, ça coulait de source dans le sens où j'ai eu des opportunités, je me suis dit, je veux les saisir. Ça a vraiment été compliqué parce que quand vous êtes simple coach sportif, on va vous dire, sportif ou tu fais quoi d'autre, voilà. Mais après, les gens comprennent assez vite. Mais après, il faut faire ses preuves, c'est comme tout.
Ok. Tu travailles également avec le comité olympique, il me semble.
Ouais, j'ai fait une grosse tournée avec le comité olympique et une marque que je ne peux pas citer.
Ok.
Ouais.
Et les JO 2024 arrivent à grands pas.
Ouais.
En termes d'activation, qu'est-ce que toi, ça va t'apporter?
Clairement, moi, après, j'interviens plus pour mettre en place via Mi Agency,
okay.
des certains événements pour des marques. On ne rentrera pas dans les détails parce que je ne sais pas, je n'ai pas encore vu si je voulais en parler ou non. Mais en fait, on organise des événements. En fait, on s'occupe des projets clés en main, tout simplement, et en vue des JO. Parce que les JO, c'est une grosse vitrine pour la France, clairement, pour Paris, pardon, mais même pour la France. Et clairement, il y a une émulation qui fait qu'il y a tellement de choses qui se mettent en place, c'est que vous pouvez être sous-traitant d'un sous-traitant d'un sous-traitant.
Okay.
Donc nous, en gros, on a la chance d'avoir certains contacts qui font qu'on fait appel à nous. Et clairement, nous, on organise des événements, que ce soit, ça va d'une soirée... comment expliquer ça ? D'une soirée... j'ai oublié comment on dit ça, j'ai oublié le terme, je suis désolé. Mais ça peut être un événement running, un événement training... tu vois, ça peut être une table ronde, il n'y a pas de règles, quoi. Donc, clairement, moi, c'est génial dans le sens où ça va faire grossir mon réseau et c'est toujours du business qui vient, qui se développe, quoi.
Bah, les activations, elles seront essentiellement événementielles par rapport au JO. Il n'y aura pas, par exemple, comme c'est une... je suppose que les athlètes, ils préparent cette compétition.
Non, je ne pense pas que j'interviendrai sur ça.
Okay.
Je suis plus sur le versant, là, entrepreneurial, clairement.
Okay.
Et consulting. Après, j'aurai des trainings, j'aurai des clients de l'étranger, mais je ne pense pas que ce sera de l'athlète de haut niveau, là, pour le coup. Non. L'athlète de haut niveau, c'est un vrai... Le sport, c'est une niche, mais le sport de niveau, c'est encore plus une niche.
Ok.
C'est clairement ça. Donc, moi, je sais que je n'interviendrai pas. Ce n'est pas ma volonté. Et de deux, je pense que c'est des choses que je ne vais pas aller chercher, tout simplement.
D'accord. je veux quand même rester sur les athlètes de haut niveau. J'imagine que les moyens ne sont pas les mêmes en fonction des athlètes. Businessment parlant, comment ça fonctionne ? Est-ce que tu es contraint d'adapter tes services ou ton offre en fonction des clients, ou tu cibles vraiment des clients en particulier ?
Moi, j'ai la chance, clairement. Moi, j'ai fait un constat très simple. C'est que j'ai toujours voulu être autonome et avoir une sorte de liberté, même pas une sorte, être libre. Financièrement, ça passait par là, forcément. Donc, en gros, j'ai clairement cherché à avoir la clientèle qui me permettait de ne pas être trop regardant, sachant que ce n'est pas forcément dans les mœurs des Français à la base d'être accompagné au niveau du coaching sportif, au niveau du sport. Donc, les gens étaient peut-être un peu réticents, même les gens qui ont les moyens. Moi, je ne m'adapte pas forcément à chaque porte-monnaie, ce n'est pas mon but. Ouais. Mais j'ai des clients divers et variés. Ouais. Mais pour un athlète de haut niveau, clairement, c'est autre chose. Et ça dépend du sport. Parce qu'athlète de haut niveau, vous pouvez être athlète de haut niveau en escrime, je peux vous garantir que ça ne va pas être aussi facile qu'être footballeur en national. Clairement. Je ne vous dis pas que les footballeurs nationaux ont tous la belle vie, mais les salaires, s'il y a une très grosse disparité dans le sport de haut niveau, dans le monde, hein, ce n'est pas seulement en France. Okay. Donc clairement, moi, ça dépend toujours de qui paie et qui est prêt à investir. Un sportif de haut niveau, il sait que son corps, bah, c'est son gagne-pain, clairement. Mais un sportif de haut niveau dans le football, clairement, ses revenus, limite, il y a des fois, c'est pas lui qui paie du tout, quoi. Okay. Alors que demain, un sportif de haut niveau en escrime, sans aucune discrimination, ouais, je pense que les moyens sont beaucoup moins importants. Donc là, c'est lui qui peut, s'il demande du coaching, on peut le mettre en relation avec moi, mais il faut voir qui, à la fin, s'occupe de payer la prestation. Ouais.
Mais justement, au niveau des paiements de prestations, j'ai eu des retours sur le fait que dans certaines disciplines, je pense que c'est plus lié à certaines disciplines et à certaines institutions dans certaines disciplines.
Bien sûr.
Au niveau des prestataires, il y a souvent des problèmes de règlement, etc.
C'est pour ça que, ouais, c'est parce que...
Alors qu'on parle d'athlètes de haut niveau. Donc.
Bien sûr, mais il faut savoir, par exemple, je prends l'athlétisme, après, même on en parlera beaucoup mieux que moi, mais je sais qu'il y a des athlètes d'athlétisme qui étaient athlètes professionnels, hein, clairement, qui travaillaient encore, quoi. À un certain moment, il y a quelques années, je ne sais pas si ça se fait encore, il y a quelques années, oui, qui avaient de très bons niveaux, et ils travaillaient encore, alors qu'aux États-Unis, par exemple, rien à voir. Depuis très jeune, vous arrêtez de travailler, vous faites que ça. Et vous avez des bourses, des subventions. Quand vous êtes bon dans un domaine, on vous pousse.
On met les moyens.
Ouais. Voilà, c'est ça. C'est vrai que la France, pendant longtemps, ça a beaucoup évolué. Encore heureux. Mais clairement, le professionnalisme, c'était une question assez touchy, on va dire ça comme ça. Mais non, c'est vraiment inégal. Ça dépend du sport.
Ok.
Pas facile.
Parle de culture aussi. Tout à l'heure, tu as dit qu'on n'a pas cette culture dans le coaching individuel, etc., forcément. Mais ça se démocratise pour le coup. Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de sollicitations ? Enfin, comment cette évolution, elle se marque, en fait ? Comment tu la vois, cette évolution ?
Bah, clairement, maintenant, les gens sont beaucoup plus accompagnés qu'avant. Après, les gens, après, de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils s'éduquent un peu plus. Il y a plusieurs écoles, on va dire ça comme ça. Maintenant, le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi des coachs qui ont des gens qui des fois font un peu n'importe quoi et clairement qui postent n'importe quoi, donc, qui bradent les prix. Parce qu'en fait, il y a énormément d'offres et beaucoup moins de demandes. Et ça, c'est très difficile, dans le sens où il y a des coachs en ligne qui vont gagner énormément d'argent. Et donc, les coachs qui, en présentiel, vont forcément brader leur prix. Et ça casse le marché, mais dans le mauvais sens.
Okay.
Si je m'exprime clairement, c'est vraiment pas bon pour le marché.
Okay.
Et même pour la qualité du métier en général. C'est très compliqué.
Et il y a eu le Covid. En tant que coach sportif, comment on gère une crise comme ça, justement ? Est-ce que le fait d'avoir diversifié, toi, tes activités, justement, ça t'a permis de gérer une crise comme ça, où, après, je suppose que tous les marchés ont été impactés, mais est-ce que c'est le fait d'avoir diversifié ces activités qui permet de mieux résister à,
clairement,
à une crise
ce que
comme
je
ça.
Disais, c'était moi, j'étais plus jeune, j'étais un des mecs, j'étais pas très organisé. Pour être transparent, j'étais pas très organisé plus jeune. Je parle de jeune, j'avais 20 ans. Hein. Moi, ça a été ben, le fait d'être de diversifier la gestion financière, apprendre à gérer de l'argent, c'est pas facile. Et ça, je sais qu'il y a plein de coachs qui s'en sont mordus les doigts. Parce que déjà, ils gagnent. Après, tout est relatif. Ça dépend de combien vous générez. Mais après, si vous générez juste assez pour être, pour pouvoir vivre décemment, avec la période du Covid, c'est comme tout. Il y a eu des grands gagnants pendant le Covid et des grands perdants. C'est ça la vérité. Donc, les coachs qui ont su gérer financièrement, en termes d'organisation, pouvoir faire du en ligne, voilà, ça a vraiment été de l'organisation. Parce que le Covid, en fait, il a pris tout le monde de plein fouet. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su faire face. Ça a été compliqué pour certains. Mais vraiment, le Covid, clairement... Après, je ne sais pas si tu me demandais à titre personnel.
De manière générale et à titre personnel.
De manière générale, il y a plein de coachs qui se sont mordus les doigts, qui ont même arrêté, qui ont été obligés d'aller travailler après.
Est-ce que c'était indispensable de se digitaliser pour...
Pour beaucoup, oui. Ceux qui n'avaient pas su s'organiser à temps. Parce qu'au final, le Covid, ça a duré 2 ans, mais après, on est ressorti au bout de 2 mois. Après, il y a eu une autre période. Donc voilà, donc ça a été faisable. Mais pour ceux qui n'ont pas su s'organiser et prendre leurs précautions, je pense d'abord d'un point de vue financier. Parce que si en fait, vous dépensez tout et que vous ne faites pas de projection, dans la vie, si vous n'avez aucune trésorerie, c'est compliqué.
Ouais.
Pour certains coachs, vous voyez ce que je veux dire. Et pour les gens en général. Mais pour les coachs sportifs, qui a un métier assez, je dirais pas volatile, j'aime pas ce terme, mais instable, on va dire ça comme ça, qui peut l'être en tout cas. Ouais.
Je le souhaite pas. Hein. Ouais. Mais si demain, il y a une autre crise du même genre qui se présente, est-ce que, là je parlais peut-être plus à titre personnel, toi tu sais que c'est quelque chose que tu pourras gérer, ou bien ça reste compliqué dans tous les cas de faire face à ce type de crise?
Pour moi, je gérerais parce que j'ai, entre guillemets, la bouteille, sans aucune prétention, j'ai la bouteille. Il y a certaines choses pour lesquelles je me suis organisé et clairement, je gérerais. Moi, voilà. Mais je sais que ça peut être très compliqué. Il faut vraiment bien gérer.
Ok.
Non, mais à titre personnel, moi, j'ai pas de problème.
Ok. Au-delà des services qu'apporte un coach sportif, est-ce que ça revient sur le débat des réseaux sociaux, etc. Mais la création de contenu aujourd'hui, elle permet de se créer une communauté.
Clairement. La création de contenu de qualité, parce que maintenant vous avez beaucoup de contenu sur tous les réseaux sociaux qui soient. Parce que ça, Instagram, c'est un des plus gros, voire le plus gros. J'ai pas les chiffres en tête. Mais clairement, la création de contenu de qualité, c'est super important vis-à-vis des marques, vis-à-vis des particuliers. C'est super important. Maintenant, comme il y a plus de demandes et il y a plus d'offres, clairement, comment se différencier par rapport au contenu? Parce que la différenciation, c'est ce qui fera que vous ayez un client ou non en soi. Maintenant, les personnes se différencient de chacune de leur façon, en fait. Il y a des gens, forcément, quand vous êtes coach, si vous n'avez pas le physique qui va avec, ça peut être compliqué. Mais il y a des coachs, par exemple, aux États-Unis, qui travaillent très bien, qui travaillent depuis des 40, 45 ans, avec des équipes comme de NFL. Il n'y a pas de règles, parce qu'il y a aussi vos connaissances. Ça dépend vraiment le coaching, le sport de haut niveau. Ouais, si vous avez vos connaissances, vous avez vos connaissances. Après, vous avez un certain âge, on s'en fout de votre physique, quoi, tout simplement.
Ok. On arrive au bout de ce business club.
Ok.
Ça a été un plaisir d'échanger avec toi.
Ben moi aussi, j'ai pas vu le temps passer.
Pour conclure ce podcast, tu aurais un message à faire passer ou tu as des actualités à nous partager?
Ben, les actualités, c'est clairement moi, continuer sur ma lancée de coaching sportif et de consulting avec Mia Agency notamment.
Okay.
Parce qu'on a des très beaux projets qui arrivent et des projets très intéressants en France principalement. Et aussi essayer de développer le studio, clairement créer une émulation encore plus, comment expliquer, créer quelque chose de différent, tout simplement.
D'accord.
Après, moi, j'essaie de pas, c'est particulier à dire, je reste moi-même quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, tout ce qui arrive, non, je suis moi-même, je t'amène à un objectif. Et ma personnalité, je suis qui je suis. Je vais jamais me travestir. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Okay. Et mon actualité, ce sera toujours ça, peu importe les projets dans lesquels je m'engagerai. Un projet, forcément, il y a la partie financière, on va pas se mentir, je vais pas jouer la langue de bois. Mais on m'a déjà proposé des projets financiers
conséquents.
Je qualifierais très conséquents, et j'ai refusé. Bon, on va dire que je vous dis pas que ça va arriver tout le temps, mais vraiment, restez vous-même. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est pas la réalité. C'est ce qu'on veut vous montrer. Malheureusement, c'est une autre génération. Moi, j'ai 36 ans. J'ai un recul que peut-être un jeune de 23 n'a pas, sans aucune prétention. Je ne suis pas non plus le père Foura, mais...
Bien sûr.
C'est comme ça que je vois. Donc là, l'actualité, c'est vraiment pousser Mi Agency et tous les projets, les amener à terme pour arriver au JO 2024 et faire que ce soit un très, très grand événement, tout simplement.
Ok. Merci d'avoir répondu présent.
Merci beaucoup.
Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouveau numéro du podcast Business Club.